Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Abandonne-moi le bras droit, le bras gauche, la poitrine, les deux épaules et le ventre. Et voilà, tu vois, tu n'as plus la parole, ton cœur n'a plus besoin de battre, plus la peine de respirer. C'était une agitation bien inutile, n'est-ce pas ? Dans la toute dernière scène du Roi se meurt, Marguerite accompagne de ses mots le souverain Béranger, alors immobile et figé comme une statue, avant qu'il ne disparaisse à jamais. En 1975, dans les 3e et 4e volets d'une série de 12 entretiens accordés à Claudine Chonnaz, Eugène Ionesco analysait l'évolution de ses pièces depuis Les Chaises, créées en 1952, jusqu'au Roi se meurt, monté pour la première fois 10 ans plus tard. Première diffusion sur France Culture, les 19 et 20 mars 1975.
Nous en sommes encore au temps de la cantatrice chauve et de la leçon. Bientôt, nous arrivons aux fameuses chaises, qui pour beaucoup de vos admirateurs sont peut-être la pièce qu'ils préfèrent à toutes. Je me rappelle aux chaises au Théâtre Lancry.
Il y a eu beaucoup de monde. La salle contenait 350 seulement. Ces 350 personnes-là ne sont venues qu'une seule fois à la Générale. Le reste du temps, il y avait 6, 8, oui. 10 personnes. Parmi ces 4 personnes, il y avait Audi Berti et 3 amis.
C'est extraordinaire.
Ils sont restés jusqu'à la fin et Audi Berti nous a beaucoup encouragés. Il a écrit dans Art et il a même dit que c'était un chef-d'œuvre.
Ça paraît tellement évident maintenant qu'on est absolument surpris à quel point ça a pu être méconnu. Est-ce que c'est tout de même avec Les Chaises, beaucoup plus tard, que vous avez obtenu votre premier succès, que vous êtes sorti, comme on dit?
Ça a déjà commencé avec la cantatrice chauve.
Ah bon?
Parce qu'il y a eu Queneau, Vitrac et Salacrou qui sont venus un jour et qui en ont parler un peu. Et puis la deuxième fois, ça a été à la leçon, pendant où il n'y avait pas de monde, mais une fois, ils sont venus très nombreux, ils étaient 35, et parmi eux, il y avait Paul. Donc ça avait commencé petit à petit.
Oui.
Il y a eu quelques bonnes critiques, mais on a eu aussi beaucoup de mauvaises, dont celle de Jean-Jacques Gauthier. Et la pièce a démarré parce que Anouilh a écrit un article dans le Figaro en première page. Et je trouve que ça a été très chic de sa part. Il disait qu'il ne faisait pas le même théâtre, que c'était, il n'avait aucun intérêt à dire du bien de ma pièce. Cependant, il le faisait, il invitait les gens à venir au théâtre. Alors, ils sont venus pendant 2 semaines. Mais ils sont venus nombreux, mais ils repartaient déçus. On a fait beaucoup de choses au théâtre depuis Les Chaises et surtout depuis 60, 65. Mais à ce moment-là, cette pièce-là leur paraissait absolument folle. Alors, ils n'y comprenaient rien. Ils venaient, ils repartaient, que ça veut dire? Même Villard. J'ai eu des entretiens avec Villard et il me demandait que font ces chaises vide sur la salle, mais au point de vue architecture scénique, ça fait beau comme ça, des chaises vides.
Il ne comprenait pas le symbole d'inanité. Il n'avait pas l'air de comprendre le sens même de la pièce, car elle a un sens profond. Elle n'est pas du tout délirante, à mon avis. Elle n'est pas du tout folle. Elle exprime avec une clarté absolue.
Mais c'est maintenant que on comprend, et à mon avis, on a même compris trop vite.
Peut-être. Comment l'entendez-vous tout de même?
Parce que ce qui est compris
ah oui, faut le dépasser.
Est démonétisé, il faut dépasser.
Cette espèce de jeu qui est constant chez vous, n'est-ce pas, d'être qui se présente devant une fausse scène, devant de faux objets, pour accomplir de fausses actions dans une espèce précisément tout de même de délire onirique qui ne correspond à aucun réel. Seulement, ça correspond exactement à ce qui est, je crois, la base même de tout votre théâtre, parce que c'est la base même de votre pensée la plus intime, je crois, c'est de dire que le réel est en réalité irréel.
Oui, c'est cela. Et que la vraie réalité, c'est dans l'imaginaire.
C'est ça. Mais même que le réel, l'interprétation... que le quotidien lui-même, oui, est entièrement saturé d'imaginaire et d'insolite. Non seulement, il y a l'évasion dans l'imaginaire, ça c'est sûr, mais encore une fois, le quotidien le plus banal est en lui-même irréel.
Oui, insolite. C'est dans le quotidien le plus banal que j'ai trouvé d'ailleurs la matière de plusieurs de mes pièces. Et justement, oui, ces pièces-là expriment ce sentiment d'étrangeté, sur le nom de, oui, merveilleux du monde. Ça me renvoie à mes intuitions initiales et enfantines. Ça me fait revivre ce sentiment-là que nous pouvons avoir quand nous regardons le monde, en nous détachant du monde, en nous disant, mais pourquoi cela? Comment ça va? Qu'est-ce que c'est que cela? C'est-à-dire, je n'ai jamais pu donner, et personne ne peut donner d'ailleurs, mais je n'ai jamais pu donner un semblant de signification cohérente à ce monde. Quand je prends conscience qu'il y a le monde, je suis étonné et il y a un sentiment de bien-être et de malaise mélangés. Et pour la cantatrice Chauve, c'est pareil. Ce sont des gens qui parlent dans un espace sans espace, qui se meuvent dans un espace sans espace et qui disent des mots, des paroles incompréhensibles. Donc la question fondamentale est celle-ci qui me reste, que je me pose à chaque instant, presque à chaque instant. Pourquoi y a-t-il quelque chose? Où ça va tout ça? Comment ça va? Et où ça va?
Alors, à ce moment-là, vous considériez, rétrospectivement, je pense, vous considérez peut-être toujours, ce qu'on ne peut plus dire maintenant de vos dernières pièces, comme une sorte de rejeton du surréalisme.
Peut-être, mais je ne crois pas. Ce n'est pas tout à fait la même chose.
C'est vous qui l'avez écrit, c'est
oui, pas oui, moi. Oui, je sais, mais c'est vrai en partie. Je n'ai pas tout à fait cela. C'est-à-dire que c'est un monde de plutôt paralogique. Et ce n'est pas vraiment une dictée surréaliste.
Oui.
Comme dans Jacques ou la soumission, c'est une désarticulation du langage ou même du mot. Enfin, c'est un monde tératologique, aussi bien dans le langage que dans le comportement ou la présence des gens.
Oui.
Mais à partir du moment où on fait quelque chose à partir de cette donnée initiale, on s'écarte de la réalité. Parce que la vraie réalité est pour moi dans l'incompréhensible.
Oui.
Je me trouve au pied du mur et je me dis, qu'est-ce que c'est que cela? Qu'est-ce que c'est qui m'entoure? Qu'est-ce que c'est que tout cela? Alors à partir de là, on fait de la culture, on fait de la psychologie, on fait de la psychanalyse, on fait n'importe quoi. Mais moi je retourne, comme je le disais, en permanence à cet état initial. Et c'est cet état initial qui me semble être d'émerveillement, d'étonnement, de prise de conscience du monde comme si on le voyait pour la première fois. C'est cet état-là qui est le plus juste pour la connaissance. La connaissance est dans la constatation profonde de l'ignorance.
Pour les surréalistes, c'est en effet un émerveillement, c'est-à-dire une joie, si vous voulez, de constater la surréalité. Mais pour vous, peut-être à cause de cette ignorance métaphysique qui est à la base et qui vous est pénible, on n'a pas l'impression que l'émerveillement débouche sur la joie. Il débouche plutôt sur l'angoisse et sur un sentiment de déréliction. Et de,
oui.
Je pense que ça aussi, c'est une différence, si je peux dire, morale, entre l'état d'âme des surréalistes et le vôtre. Est-ce exact?
Et je crois que c'est exact.
Et puis, alors, il y a quelque chose au contraire, alors, qui vous rapproche beaucoup d'eux, et qui n'est plus du tout la même chose dans les dernières pièces. C'est dans vos premières pièces... La continuité étant très nette, nous sommes d'accord d'un bout à l'autre de votre œuvre, dans l'angoisse et l'émerveillement, d'une certaine façon, mais surtout l'angoisse. Mais ce qui est très net dans vos premières pièces et qui a changé ensuite, c'est que là, c'est la, vous opérez par la critique du langage. Tandis que maintenant, vous avez repris, jusqu'à un certain point peut-être, le langage traditionnel, le langage de tout le monde qui veut dire ce qu'il veut dire. Tandis que dans vos premières pièces, et jusqu'à Jacques ou la soumission et Victime du devoir, pratiquement à peu près jusqu'au rhinocéros, vous procédez surtout par la critique du langage, l'absurde dans le langage, est-ce exact ?
C'est pas pour qu'on parlait une critique du langage. Ça peut être la constatation d'une sorte d'absurdité du comportement des gens, donc de leur langage. Ce n'était pas une critique du langage, c'était, ce que je faisais, c'était une sorte de jeu avec les mots.
Vous avez dit, dans le temps, je jouais avec les mots, maintenant je joue avec les phrases. Mais je trouve qu'il y a un changement assez profond. Vous parlez toujours de l'absurde, mais votre langage
n'est plus absurde.
Voilà. Est-ce exact ?
Peut-être. Mais vous savez, cette désarticulation du langage, cette parodie du langage, je crois que parodie du langage, c'est mieux que critique du langage.
Oui.
Cette parodie du langage, eh bien, vous pouvez la retrouver chez Michaud, chez Queneau, mais on ne la trouve pas chez Adamov ou chez Beckett, par exemple.
Oui. C'est exact.
On m'a reproché d'arriver à un certain moment où je change de langage. Je ne fais plus la critique du langage petit bourgeois. C'est comme ça que ça a été interprété. Oui. On me le reproche, mais on ne songe pas à reprocher à Adamov et à Beckett d'avoir eu confiance dans le langage, d'avoir fait confiance au langage. En effet, j'ai fait confiance à partir d'un certain moment. J'ai dit les choses d'une façon plus claire et peut-être plus discursive. Mais je ne pouvais pas continuellement faire la même chose. C'était une certaine expérience théâtrale. Et puis après, j'en ai fait d'autres. J'y reviendrai peut-être à cette désarticulation du langage.
Il y a une chose qui est très constante chez vous, comme une des racines de votre théâtre, alors ça je crois d'un bout à l'autre de votre œuvre, c'est l'onirisme, n'est-ce pas, le goût du rêve. Ça c'est entièrement traversé par le courant du rêve, et ça aussi ça vous rapprocherait des surréalistes.
Oui, beaucoup de mes pièces proviennent des rêves, même d'une façon...
Et même de rêves personnels. Avez dit que Tueur s'engage venait d'un cauchemar que vous aviez eu.
Oui, Tueur s'engage... Je venais d'un cauchemar que j'avais eu. C'était cette promenade de Béranger dans la solitude à la rencontre du tueur, alors que tout le monde s'est écarté de lui. J'ai cette impression-là encore moi-même, parce que j'ai l'impression que les gens s'écartent de moi, alors qu'en réalité, c'est peut-être moi qui m'écarte d'eux. En Roumanie, je vivais déjà de cette solitude. Quand je suis venu en France, j'en avais plus, parce que j'ai trouvé des gens qui pensaient comme moi. Et maintenant, j'ai l'impression que je vis une nouvelle solitude, que je ne pense pas comme les autres. La véritable solitude, c'est cela. Qu'il y ait des gens qui ne pensent pas comme vous. Et c'est pour cela que parfois, il m'arrive de les considérer monstrueux. Le tueur s'engage, c'est parti d'un rêve, le rêve d'un personnage, de moi-même, personnage solitaire, abandonné par tout le monde, allant à la rencontre de cet homme qui symbolise le mal ou la mort.
Oui.
Amédée commence à s'en débarrasser, c'est toujours un rêve, c'est-à-dire oui. J'ai rêvé d'un cadavre qui grandissait dans mon couloir, la soif et la faim, il y a encore oui. Des rêves où on voit au premier acte cette femme en flamme,
oui.
Qu'il rêve d'une femme en flamme. Oui. Eh bien, c'est un vieux rêve que j'avais fait. C'était ma mère que je voyais dans les flammes la veille de sa mort. Le lendemain, elle a eu une attaque, une congestion cérébrale. Et quand je la voyais dans les flammes, j'essayais de la tirer de là et je ne pouvais pas. J'avais peur, évidemment, du feu. Et puis, il y a aussi ce rêve qui est beaucoup plus apaisant, ce rêve d'un arbre. Et à côté de lui, une échelle en argent. C'était un rêve en couleur que j'avais fait. Et puis aussi la cavalcade du cheval dans la soumission.
Dans le piéton de l'air, c'est un rêve de lévitation.
Oui, je fais souvent ce rêve de lévitation.
C'était le troisième volet d'une série d'entretiens avec Eugène Ionesco, menée par Claudine Chonaise et diffusée pour la première fois le 19 mars 1975. Tout de suite, le quatrième moment de cette rencontre.
Vous dites maintenant de vous et de votre œuvre, je suis un classique. Alors, je veux vous demander comment vous voyez, comment ça peut aller, si vous voulez, avec ce qui a été longtemps votre but, c'est-à-dire, le mot est de vous, l'antithéâtre. Et comment, si vous pensez toujours que les mots fonctionnent à vide et qu'ils n'ont vraiment qu'un sens, qu'ils c'est l'inanité, et que si la vie humaine elle-même est un vide complet, je trouve que ça ne va pas très bien avec le mot de classique, qui me semble être un humanisme, mais au sens profond du terme. Alors expliquez-moi comment vous arrangez les deux.
Bon, d'abord je voudrais vous dire qu'on vit... sur plusieurs niveaux de conscience.
Oui.
On ne peut pas faire de la métaphysique 24 heures sur 24, surtout si elle est mauvaise. On ne peut pas vivre dans l'étonnement initial tout le temps. On oublie ces moments, parce que de toute façon, ce sont des moments de choix et des moments assez rares, qui ont ensuite une répercussion sur la vie que nous menons, c'est entendu. Mais, comme j'essaie de le dire tout à l'heure, quand nous vivons, quand nous acceptons de vivre, nous nous détachons de ce sentiment initial. Alors on fait de la culture, on fait de la sociologie, on fait n'importe quoi. Et puis la question renaît, et de nouveau on est face... au mur, face à l'indicible et à l'inconcevable. Bon, comme j'avais dit que mes pièces étaient des antipièces, autrefois, et ce n'était pas des antipièces, je dis maintenant que j'écris des pièces qui sont classiques, parce qu'elles ne sont pas classiques. Bon, je vais essayer de m'expliquer. Je pourrais d'abord vous répondre d'une façon très simple. Et tricher, en quelque sorte. Je pourrais dire, par exemple, que une œuvre classique est celle que l'on étudie en classe. Et en effet, bon nombre de mes pièces sont étudiées au lycée et à la faculté, en France, ailleurs, etc. Donc, je suis un classique. Non, mais... quand je disais que mes pièces étaient classiques, je voulais dire qu'elles n'étaient pas modernes. Les pièces modernes sont, par exemple, les pièces de boulevard, qui parlent de la vie de tous les jours, celle de mon ami Roussin, celle de Achard, ils parlent de la vie de tous les jours, ils vivent, et ça se passe, leur action se passe dans la modernité. Et dans une société d'aujourd'hui. Alors, si je suis réellement classique, c'est que, je ne le suis certainement pas, mais j'ai essayé de l'être, c'est-à-dire, je crois avoir réussi quand même, d'une certaine façon, d'être dans la tradition, dans la grande tradition du théâtre. C'est cela mon modèle, la grande tradition du théâtre. Et un auteur de théâtre dans la tradition, comme un écrivain qui est dans la tradition, c'est parce que c'est dans la tradition qu'on trouve les sources vives du théâtre. Un auteur qui n'est pas un auteur de boulevard, un romancier qui n'est pas auteur de romans policiers, un sculpteur ou un peintre, ce qui les intéresse, ces artistes, ces écrivains, ces auteurs dramatiques, ce sont les problèmes fondamentaux de la condition humaine. pourquoi la vie, pourquoi la mort, pourquoi le mal. Même le théâtre de l'absurde, ou surtout le théâtre de l'absurde, a des précurseurs. Bon, Oedipe, c'est une pièce de l'absurde. La fatalité paraît absurde à l'homme. Et surtout, notre grand maître à tous, qui est Shakespeare, et qui fait dire à un de ses héros, le monde est une histoire racontée par un fou, pleine de bruit et de fureur, dénuée de toute signification.
Tale told by an idiot.
Alors, on ne peut pas avoir une définition plus parfaite, oui. Plus précise du théâtre de l'absurde.
Il y a une chose qui différencie aussi vos nouvelles pièces des anciennes, la cantatrice Chose.
Il est évident que mes dernières pièces ne ressemblent pas tout à fait aux premières. Mais le propos de ces dernières pièces ne sont pas les mêmes. Si j'avais continué d'écrire sans arrêt des cantatrices chauves et des leçons, on me l'aurait certainement reproché. Alors que maintenant, on me reproche de faire autre chose. Mais il s'agit dans ces pièces des mêmes thèmes, quand même, les mêmes obsessions, et la construction de mes pièces est très différente de celle du théâtre de boulevard, par exemple.
Oui.
On m'accuse, on me reproche d'avoir fait des concessions au langage, mais je n'ai pas toujours été tout à fait méfiant vis-à-vis du langage, même quand j'écrivais les premières pièces. Parce que cette désarticulation du langage, c'était un moyen d'exprimer, d'illustrer certaines situations. Mais des situations et les thèmes dans la deuxième partie de mon activité sont les mêmes que celles des premières pièces. Alors, le langage, donc c'est un langage, j'ai voulu exprimer les mêmes choses dans un langage plus net, dans une construction scénique un peu différente, mais ce ne sont que des expériences. Je ne fais que des expériences tout le temps. Évidemment, il y a une réalité psychologique fondamentale, mais en tant qu'écrivain, je fais des expériences de littérateur. Et j'en ferai d'autres, bien sûr.
C'est que, bon, on ne peut pas penser une seconde que Eugène Ionesco est l'imbécile M. Smith. Tandis que depuis que vous avez pris, par exemple, comme héros de 3 ou 4 de vos pièces les plus célèbres, les plus importantes, un certain Béranger, il est très visible que dans une large, large mesure, Béranger, c'est Eugène Ionesco.
Je ne pense pas, ou en tout cas, il n'est pas 100% moi-même. Il est moi-même dans la mesure où Madame Bovary était Flaubert. Emma Bovary, c'est moi, disait Flaubert, nous le savons. D'ailleurs, tout ce qui se passe dans la vie d'un écrivain n'est pas valable artistiquement, si ce n'est qu'un document. C'est-à-dire qu'il y a une transposition.
Ça, bien entendu. Mais encore une fois, vous transposez, mais vous y mettez vos idées personnel dans vos pièces maintenant, ce qui n'était pas le cas, encore une fois, pour toutes celles qui vont de la cantatrice chose à victime du devoir.
Mais il y a toujours,
Il y a toujours
des idées,
bien entendu,
derrière une œuvre.
Oui, bien sûr.
Dans la cantatrice chose, il y avait une idée, il y avait cette intuition initiale dont je vous ai parlé, et puis... C'est peut-être vrai. Moi, si vous voulez, je me suis mis là-dedans, mais d'une façon, en quelque sorte, défigurée. C'est une caricature de moi-même.
Ah, oui.
C'est-à-dire que je n'ai pas été très, très, très généreux avec Béranger. Je fais ma propre caricature. Il est un personnage déraisonnable. Je le suis aussi, certainement, mais pas à ce point-là.
Écoutez, on m'a raconté une anecdote, je ne sais pas si elle venait de vous, elle est peut-être apocryphe, c'est que quand vous écriviez « Le roi se meurt », ou comme chacun sait, justement, le héros meurt à la fin, vous aviez une espèce d'appréhension à l'idée de finir la pièce, avec l'idée que vous alliez peut-être, vous, finir en même temps. Ce qui, étant donné votre hantise de la mort... n'était pas particulièrement agréable. C'est peut-être faux. Racontez-moi.
Je ne m'en souviens pas, mais c'est très possible,
c'est possible
que cela se soit produit. J'étais malade, d'ailleurs. Je sortais de maladie quand j'ai écrit « Le roi se meurt », peut-être. Mais on a trop dit que le thème unique ou fondamental de mes pièces, c'était la mort. Ce n'est pas tout à fait cela. Les thèmes sont le mal. Comment peut-il y avoir du mal dans le monde? Alors c'est le tueur s'engage et c'est le piéton de l'air. Et puis, davantage que la mort, c'est l'ignorance. Alors je crois que cela peut bien se voir dans le dernier livre que j'ai écrit et qui s'appelle « Le solitaire ».
Oui, mais on a l'impression que le mal, pour vous, c'est avant tout, justement, l'angoisse, l'inanité et la brièveté de la condition humaine.
Oui, c'est ça. C'est
donc ça se rejoint tout de même dans l'idée que tout finit et que tout est vide, puisque rien n'est éternel et rien n'est durable.
Évidemment, évidemment. Mais ce thème a été, et le thème constant de plusieurs écrivains dont on n'a pas dit qu'ils parlaient de la mort. Prenez par exemple Émile Zola. Eh bien, on dit que c'est un écrivain social qui critique une société, s'insurge contre elle, etc. Mais le nombre de morts, le nombre d'agonies qu'il y a dans Zola est très grand et ça tient la place la plus importante, peut-être, au point de vue qualité de toute son œuvre.
Oui, mais il y a quelque chose dans vos pièces, il y a presque quelque chose de suicidaire. Zola peint des morts ou des agonies, mais vous, on a toujours l'impression que c'est la vôtre.
Dans les agonies décrite par Zola, il n'y a pas une ombre d'espoir. On voit des personnages qui sont dégradés par la maladie, par l'alcoolisme, etc., et qui meurent. Ce ne sont plus déjà que des pourritures vivantes. Et c'est à cela que tout se réduit. Donc, la critique sociale de Zola finit tout de même par la mort, une mort qui n'a pas de réponse. Bon, je ne veux pas me comparer à ce grand écrivain, mais chez moi, je ne sais pas si vous avez remarqué que la plupart du temps, il y a toujours une certaine lueur d'espoir dans « Comment s'en débarrasser ».
Il y a une espèce d'assomption.
Il y a une espèce d'assomption. Dans « Le piéton de l'air », il y a l'espoir de sa fille, de la fille de Béranger, qui dit « ça sera peut-être bien », enfin, je ne connais pas mon texte exactement. Et puis, la soif et la faim, il y a l'arbre et l'échelle d'argent. Et dans le roman, il y a aussi cette échelle de Jacob et cet arbre.
C'était les troisième et quatrième volets d'une série de 12 entretiens avec Eugène Ionesco, menée par Claudine Chaunez et diffusée pour la première fois sur France Culture les 19 et 20 mars 1975. Vous pouvez les réécouter ou les télécharger sur le site franceculture.fr à la page des nuits.